France Culture.
L'Ukraine où se tourner vers l'extrême droite. La Roumanie élit aujourd'hui son président, une bataille qui s'annonce serrée. Élection présidentielle également ce dimanche en Pologne, deux favoris pour ce premier tour. Le maire de Varsovie, pro-européen, et un nationaliste admirateur de Donald Trump. Et puis en France, suite de l'examen à l'Assemblée de la proposition de loi sur la fin de vie, les députés ont approuvé hier la création d'un droit à l'aide à mourir en rétablissant le principe de l'auto-administration de la substance létale. 5 mois après l'annulation d'un scrutin entaché de soupçons d'ingérence russe, les Roumains votent aujourd'hui pour le second tour de l'élection présidentielle. Le chef de file de l'extrême droite, Georges Simion, est arrivé en tête au premier tour avec près de 41% des voix, quasiment le double de son rival, le maire centriste de Bucarest, le pro-européen Nicu Ciordan. Virginie Pironon, vous êtes à Bucarest. Alors si on en croit les sondages, ces derniers jours, l'écart entre les deux hommes s'est considérablement réduit.
Oui, le scrutin risque d'être extrêmement serré. Et d'ailleurs, pour éviter les tensions, la plupart des manifestations publiques qui devaient avoir lieu hier ont été annulées. Même si George Simion a dit à plusieurs reprises qu'il sera selon lui ce soir président de la Roumanie, son adversaire, le maire de Bucarest, le centriste Nicu Ciordan, a marqué des points dans la dernière ligne droite. Les derniers sondages donnent les deux hommes au coude à coude. Un seul débat télévisé a opposé les candidats dans cet entre-deux-tours. De l'avis des analystes, George Simion n'a pas brillé et il a préféré ensuite sillonner les grandes capitales européennes, Varsovie, Rome, Bruxelles, Paris, où il a dénoncé, je le cite, les dérives dictatoriales d'Emmanuel Macron, qu'il accuse de vouloir s'immiscer dans la présidentielle roumaine. En cause, l'annulation en novembre dernier du premier round de cette présidentielle, c'est un parfait inconnu, Calin Georgescu, qui était arrivé en tête. Ce candidat d'extrême droite a été interdit de se représenter. George Simion a parfaitement su capter son électorat et promet, s'il est élu, de lui faire bonne place en le nommant, par exemple, Premier ministre.
Alors, en premier round de la présidentielle annulée, donc, Virginie, en raison d'ingérence russe sur TikTok, le second tour de ce scrutin n'a pas échappé à l'influence des réseaux sociaux.
Oui, selon des spécialistes que nous avons rencontrés ici à Bucarest, même si les autorités roumaines ont tenté de prendre des mesures, il reste très difficile de réguler les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'ici en Roumanie, 9 millions de personnes sur 19 millions d'habitants sont présents sur les réseaux Facebook ou TikTok. Le candidat pro-européen Nicu Ciordan a été la cible de désinformation et de propagande sans précédent dans cet entre-deux-tours. George Simion, de son côté, met en garde, je le cite, contre des fraudes massives, allégation aussitôt rejetée par les autorités roumaines. Il a dénoncé hier des irrégularités dans le vote des Roumains de Moldavie. Signe enfin de la tension qui règne ici. Hier, George Simion, qui s'est particulièrement fait connaître depuis 2019 sur les réseaux sociaux, a fermé pour la journée ses comptes Facebook et TikTok. Ils auraient pu, selon lui, être la cible d'attaque. Le candidat d'extrême droite se dit persuadé que ce soir, les sondages de sortie des urnes, qui seront publiés à la fermeture des bureaux de vote à 21h heure locale, donneront un résultat à 50-50. Mais nous attendons, dit-il, une victoire avec 60% des voix.
Virginie Pironon à Bucarest. Élection présidentielle également aujourd'hui en Pologne. Premier tour de scrutin qui doit permettre d'élire celui qui succédera à Andrzej Duda. Adrien Sarla, vous êtes notre correspondant à Varsovie. Alors 13 candidats sont en lice, mais il y a assez peu de suspense finalement concernant l'issue de ce premier tour.
Oui, les sondages semblent indiquer que, comme d'habitude, le second tour devrait se jouer entre le candidat du parti de Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, et celui soutenu par les ultra-conservateurs du PiS, Karol Nawrocki. Alors, Trzaskowski, c'est le maire de Varsovie. Il est réputé libéral, europhile et en faveur des minorités. Il parle 5 langues et est très populaire auprès des autres élus européens. Mais ça, c'est plutôt quelque chose qui vient le desservir dans cette campagne, car ça participe à renforcer cette image d'un candidat élitiste, souvent accusé d'être déconnecté des réalités des Polonais. En face, Karol Nawrocki, c'est un ancien historien. Il a dirigé l'Institut National de la Mémoire sous le gouvernement du PiS, mais il n'a jamais été encarté au parti. Et justement, si le PiS mise sur lui, c'est qu'il cherche à dépoussiérer son image en mettant en avant un novice en politique. C'est ce qu'ils avaient fait en 2015 avec Andrzej Duda, et à l'époque, ça avait plutôt bien marché, puisque Duda aujourd'hui s'apprête à terminer son deuxième mandat à la tête de l'État.
Alors Adrien, en quoi cette élection présidentielle pourrait-elle avoir une influence sur l'avenir d'un pays où l'essentiel du pouvoir est aux mains du Premier ministre et du gouvernement ?
Oui, alors c'est vrai, le président polonais a un rôle plutôt de représentation, mais il est aussi à la tête des armées. Et surtout, l'essentiel de son pouvoir réside dans son droit de veto, avec lequel il peut bloquer l'action du gouvernement. Et ça, Andrzej Duda l'avait bien compris, puisque depuis l'arrivée du gouvernement de Donald Tusk l'an dernier, il oppose ce fameux veto présidentiel à toute tentative de libéraliser la Pologne, ou de revenir sur ce que son parti avait mis en place durant les 8 ans de règne du PiS. Alors, pour le gouvernement Tusk, l'élection de Trzaskowski est cruciale, car elle lui permettrait enfin de réaliser les promesses de campagne sur lesquelles il s'est fait élire il y a un an et demi.
Adrien Sarlat, à Varsovie, 33 personnes tuées durant la nuit tôt ce matin par des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, selon la défense civile palestinienne, afin de préparer une possible invasion. Israël, malgré la pression internationale, a intensifié ces derniers jours ses bombardements et ses opérations militaires terrestres dans l'enclave. Un mort après une explosion devant une clinique spécialisée dans la procréation médicalement assistée aux États-Unis, en Californie. Un acte intentionnel, selon le FBI, qui indique que l'enquête permettra de déterminer s'il s'agit de terrorisme international ou de terrorisme intérieur. France Culture, 9h et bientôt 6 minutes. En France, les députés ont approuvé hier la création d'un droit à l'aide à mourir. Une restriction tout de même. Seule une personne dans l'incapacité physique de s'administrer elle-même le produit létal pourra bénéficier de l'aide d'un soignant. Ceux qui en seront capables devront se l'auto-administrer. Une occasion manquée de prendre en compte toutes les demandes des patients, regrette Denis Labelle, ancien chef de service hospitalier et porte-parole de l'association Le Choix, qui milite depuis de nombreuses années pour l'aide à mourir.
Je ne suis pas surpris, puisque en fait le gouvernement avait précisé les choses dès le début, qu'il ne souhaitait pas une extension de la loi. Néanmoins, c'est une méconnaissance des choix des malades, dont certains malades sont d'accord pour, parce qu'ils ont la force de choisir le suicide assisté, et puis d'autres souhaitent la présence de quelqu'un du corps médical. Et c'est le rôle des médecins d'être là, à ce moment-là, de l'aider, de répondre à sa demande. Parce que, si vous voulez, il y a un lien qui se crée entre le médecin et le malade. Et ce lien, il n'y a pas de raison de le rompre au dernier moment. Ça ne se fait pas. Alors, en Belgique, théoriquement, c'est plutôt l'aide médicale. C'est la présence du médecin. En Suisse, par contre, c'est le suicide assisté. Et l'originalité de la loi française aurait été de prendre les deux, parce qu'elle correspond à des demandes variées des malades. Et malheureusement, on loupe le coche. Mais c'est pas, ça sera à faire dans un deuxième temps.
Denis Labelle, porte-parole de l'association Le Choix, propos recueillis par Alice Cachaner. Le garde des Sceaux Gérald Darmanin annonce la création d'une prison de haute sécurité de 500 places en Guyane, en pleine jungle. Elle accueillera à partir de 2028 les détenus condamnés aux peines les plus lourdes pour narcotrafic ainsi que des prisonniers radicalisés. Un peu de douceur avant de refermer ce journal avec le seul festival français entièrement dédié à la harpe. Quatrième édition du festival Harpomax au pays d'Ancenis en Loire-Atlantique. Il s'achève aujourd'hui, 165 artistes invités, plus de 55 concerts pour un festival qui met un point d'honneur à amener la harpe partout, bibliothèques, marchés et même dans les centres commerciaux pour battre en brèche l'image parfois un peu guindée de l'instrument. Louis-Valentin Lopez.
Un concert de harpe dans un hypermarché entre une cafétéria et un opticien, l'image est peu commune. Fabius Constablet dirige le Harp Beat Orchestra.
C'est insolite, c'est difficile et c'est sans doute le dernier endroit où un musicien aurait envie de jouer. Mais pour nous, aujourd'hui, c'était le meilleur, car la harpe est pour tout le monde. Elle n'a pas vocation à être élitiste.
Et ça marche à en croire Carole qui remplit son caddie juste derrière.
Ça fait bizarre de voir ça dans le... à faire ses courses, donc c'était sympa. Ça permet de découvrir aussi ce que je connaissais pas plus que ça, la harpe.
La harpe riche aussi en 2025 de multiples influences, ajoute Fabius Constablet.
Vous pouvez fusionner la harpe avec du heavy metal, du rock, des bandes originales, pas seulement de la musique classique ou traditionnelle.
Et il n'y a pas seulement la harpe occidentale ou celtique, nous rejoignons Ryder Alvarado au théâtre Quartier Libre d'Ancenis. Il fait partie du groupe vénézuélien Horizontes et joue de la harpe dite Yarena.
Notre musique est très rapide, rythmique. Nous tapons aussi sur le bas de la harpe comme une percussion. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles enseignent la harpe. Une nouvelle génération de harpistes émerge et avec elle, de nouvelles techniques.
Décloisonner la harpe, déjouer les clichés, c'est l'objectif de Jacques François, le programmateur du festival.
La harpe, c'est pas l'instrument qu'on imagine seulement entre les doigts d'une princesse dans son château avec cette image un peu vieillotte et aristocratique, mais c'est un instrument très vivant.
Et pour encore plus casser les codes, le festival proposera ce dimanche un concert de haute voltige mêlant la harpe et le cirque.
Encore raté pour la France à l'Eurovision, Louane termine à la 7e place du concours remporté par un contre-ténor autrichien. Malgré les appels au boycott, Israël arrive 2e. Le temps aujourd'hui ensoleillé, même si le ciel est parfois un peu voilé. Quelques grisailles encore ce matin sur le tiers nord. Les températures maximales 15 à 19 degrés au bord de la Manche, 19 à 24 sur le reste de la moitié nord jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes, 24 à 29 au sud.